franceinter.fr.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une crise agroalimentaire qui a fait trembler l'Europe. Dans les années 90, la crise de la vache folle. Cette affaire, qui a éclaté au printemps 1996, c'est celle d'une psychose collective face à des images chocs que nous avons encore tous en tête. Des vaches titubantes n'arrivant pas à se tenir droit sur leurs pattes et qui finissent par s'écrouler dans d'étranges convulsions. Ce dossier, c'est celui de 180 000 bovins atteints d'une maladie neurodégénérative incurable, la maladie de l'ESB, plus communément appelée la vache folle. Et puis on s'est rendu compte que cette pathologie était transmissible à l'homme et qu'elle était mortelle. Une nouvelle donne qui provoquera la plus grande crise agroalimentaire européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et aussi une crise de civilisation. Car enfin, où va ce monde qui nourrit du bétail normalement herbivore avec de la farine de cadavre d'autres animaux ? Quelle logique suit-on, si ce n'est celle du rendement, donc de la rentabilité, aux dépens des lois fondamentales de la nature et de la santé de tous? Il se trouve qu'on a détecté un cas de vache folle en France en mars dernier dans un élevage des Ardennes, mais nous dit-on, il n'y a pas de quoi s'affoler, d'abord parce que les farines animales ont été interdites et parce que c'est un cas isolé. Notre invité après le récit, Éric Favreau, journaliste, spécialiste des questions de santé à Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, lecture Delphine Valaille et Philippe Pierrard, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyen Guyenne, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Florent Layani.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 20 mars 1996, palais de Westminster, Londres. Au siège de la Chambre des communes, les membres du Parlement sont réunis pour répondre aux courriers hebdomadaires de leur circonscription. L'ambiance est calme et personne ne s'attend à cette crise qui va déferler sur l'Angleterre et sur l'Europe. Pourtant, depuis quelques jours, une partie de la communauté scientifique britannique est en émoi. Une rumeur circule, selon laquelle une étude ultra-confidentielle émanant d'un laboratoire spécialisé dans les maladies neurologiques à Édimbourg remet en cause bien des certitudes sur la transmission possible d'une maladie neurodégénérative de l'animal à l'homme. Toujours à Westminster, face aux députés, le ministre de la Santé britannique, Stephen Dorrell, monte à la tribune et prend la parole.
Avec votre permission, Madame le Président de la Chambre, je voudrais faire une déclaration à propos du dernier avis rendu au gouvernement par le comité consultatif sur l'encéphalopathie spongiforme, une maladie animale qui touche le cerveau et que l'on connaît sous le nom d'ESB. Le comité a examiné le travail fait par l'unité de surveillance d'Édimbourg, spécialisée dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sa variante humaine. Ce travail, qui concerne 10 cas de maladies identifiées chez des personnes de moins de 42 ans, a conduit le comité à conclure à l'existence d'une nouvelle maladie jusqu'à présent inconnue. Un examen de l'histoire de ces patients, des analyses génétiques et des considérations sur d'autres causes n'ont pas permis de trouver une explication satisfaisante. Et même si nous n'avons à l'heure actuelle toujours aucune certitude scientifique sur le fait que l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB, puisse se transmettre à l'homme par le bœuf, le comité a conclu que l'explication la plus probable pour ces patients malades est un lien avec l'exposition à l'agent responsable de l'ESB avant l'interdiction des farines bovines de 1989. Autrement dit, la seule explication possible est que l'agent inconnu à l'origine de la vache folle soit vraisemblablement transmissible à l'homme.
En un instant, un silence de plomb s'abat sur la Chambre des communes. L'ESB, encéphalopathie spongiforme bovine, une maladie animale plus communément appelée maladie de la vache folle, serait-elle transmissible à l'homme? Serait-elle la cause de la maladie humaine de Creutzfeldt-Jakob? Faut-il arrêter de consommer de la viande de bœuf? Se peut-il que des gens soient infectés dans le pays sans le savoir? Aucune étude sur le sujet n'a pu formellement le démontrer. Mais si les études du laboratoire écossais sont avérées, l'Angleterre, premier exportateur de viande de bœuf en Europe, court à la catastrophe sanitaire, économique et politique. Dans les heures qui suivent, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Elle se répand dans toutes les salles de rédaction d'Europe et de tous les pays qui importent de la viande de bœuf britannique. Plusieurs télégrammes de l'AFP se suivent avec le même message. Alerte, urgent, AFP. le ministre britannique de la Santé, Stephen Dorrell, annonce la possible existence d'un lien de transmission entre l'une des formes de la maladie animale de la vache folle et de la maladie humaine de Creutzfeldt-Jakob. La nouvelle est reprise dans toute la presse britannique et européenne. Alors une psychose s'installe dans l'opinion publique, relayée par les quotidiens du soir en Angleterre, qui titrent entre autres « La viande de bœuf est contaminée, les gens sont en danger » ou encore « Scandale de la vache folle, le gouvernement savait mais n'a rien dit ». Un vent de panique souffle sur l'Europe. Au soir du 20 mars 1996, s'ouvre une crise agroalimentaire sans précédent, c'est la crise de la vache folle. La nouvelle fait l'ouverture du journal d'Antenne 2.
Madame, monsieur, bonsoir. Un vent de panique souffle sur l'Angleterre depuis que des médecins ont émis l'hypothèse que la maladie de la vache folle qui touche le bétail britannique, une sorte d'encéphalite bovine, pourrait être transmissible à l'homme et provoquer chez lui la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie mortelle du cerveau. Londres envisage, si ce rapport se confirme, d'exterminer à grande échelle tout le bétail britannique. La France a d'ores et déjà décidé d'interdire toute importation. Londres, Véronique Tavo.
Des boucheries quasiment vides à une heure où habituellement les Anglais font leur shopping dans les grandes surfaces de Londres ou chez les détaillants, un même constat, le bœuf est largement boycotté. Dans 10 000 écoles du pays, pas un gramme de viande de bœuf n'est servi depuis ce matin. Entre colère et profonde inquiétude, il y a unanimité, plus question de manger de la viande de bœuf.
Je crois que c'est terrible, je crois que le gouvernement a délibérément refusé de reconnaître ce que les gens disaient depuis longtemps. Moi, je ne mangerai plus jamais de bœuf.
Je ne leur fais pas confiance. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils nous disent. Je pense que toutefois, c'est dangereux de manger du bœuf. Je crois que toute la viande en circulation est contaminée et je n'en mangerai pas.
Pour la première fois, le gouvernement britannique reconnaît qu'il pourrait exister un lien entre une forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la maladie de la vache folle. Entre cette maladie qui provoque une dégénérescence du cerveau chez l'homme et la maladie qui affecte les vaches. Un lien que nombre d'associations essayaient de faire admettre depuis de longs mois, et c'est bien cela qui provoque aujourd'hui la colère. 55 personnes sont déjà mortes ici, en Grande-Bretagne, et selon la presse, de nombreux cas pourraient se révéler dans les mois qui viennent.
Fin de l'hypothétique barrière des espèces, et donc possible transmission de l'agent de la vache folle à l'homme. Nombreux sont ceux qui découvrent une crise sanitaire sur laquelle les différents gouvernements sont restés jusqu'alors très discrets. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on a découvert l'encéphalopathie spongiforme bovine. C'est en novembre 1986, dans la province du Sussex, dans le sud de l'Angleterre, qu'une vache présentant des symptômes neurologiques atypiques, agressivité, perte d'équilibre, troubles cardiaques, est diagnostiquée positive à l'ESB. Un premier cas de vache folle, donc. Dans les semaines qui suivent, dans des dizaines et des dizaines d'élevages de Grande-Bretagne, de multiples cas de vaches ayant les mêmes symptômes sont signalés aux autorités vétérinaires. Le principe de précaution est immédiatement déclenché et les animaux contaminés sont abattus, puis incinérés. Pourtant, à la fin de l'année 87, ce sont près de 800 cas qui sont recensés. Dès lors que le comportement de l'animal est jugé anormal, et chaque semaine, ce sont des dizaines de bêtes qui viennent s'ajouter à la longue liste des bovins condamnés à mourir. À Londres, où l'on craint une épidémie, ou encore sur place des experts du laboratoire central vétérinaire du ministère de l'Agriculture, car il s'agit de comprendre comment et pourquoi les bovins sont malades. D'emblée, il y a cet élément troublant pour les scientifiques. Les symptômes des vaches atteintes d'ESB sont très proches de ceux de la maladie de la tremblante qui touche, elle, le mouton. Les scientifiques ne vont pas tarder à découvrir d'où vient le problème.
Si les vaches n'avaient jamais mangé de viande, elles n'auraient jamais attrapé la maladie de la vache folle. Le geste en cause, avoir donné à ces traditionnels herbivores un aliment contre nature, des FVO, traduction des farines, viande, os. Dans ces aliments, on met des rebuts d'abattoir, mais aussi des animaux d'écarissage, ceux trouvés morts dans les prés par exemple. Parmi ces carcasses, certains moutons atteints de la maladie de la tremblante, le germe a ainsi franchi la barrière de l'espèce.
Voilà comment, 10 ans plus tard, en 1996, on se retrouve avec une crise sanitaire d'une ampleur mondiale à cause de pratiques agro-industrielles totalement irresponsables. Pour comprendre ce scénario ahurissant, il faut se replonger dans les années 80, les années Thatcher, où tout ce qui avait rapport de près ou de loin à une réglementation était considéré comme nuisible à l'économie. Ça s'appelle le libéralisme, qui est appliqué aussi aux réglementations sur la confection des farines animales. Jusque-là, obligation était faite aux industriels de chauffer les produits afin d'éviter que les germes infectieux ne puissent se retrouver dans la nourriture destinée aux bovins. Or, c'est par souci d'économiser le gaz que le gouvernement de Madame Thatcher invite les fabricants de farines animales à moins chauffer leurs préparations. Bon, 30 degrés de plus ou de moins, ça ne va pas changer le résultat final. Alors on chauffe moins. C'est à cause de cette nouvelle procédure qu'un agent pathogène issu des carcasses de moutons va subsister dans les farines et infecter les vaches saines. Cet élément, c'est le prion, une protéine diabolique. Le prion, c'est le dénominateur commun de la maladie de la tremblante chez le mouton et de celle de la vache folle. Dans son ouvrage publié en 1999, intitulé « De la maladie de la vache folle à celle de Creutzfeldt-Jakob », le professeur d'hématologie Gilles-Patrice Cassuto explique le rôle du prion.
Lors des biopsies réalisées sur des animaux malades, le constat est sans appel. Les cervelles des bovins sont infectées de prion, une protéine 10 fois plus petite qu'un virus. Un agent pathogène bien plus redoutable qu'une bactérie et qui, lorsqu'il est replié sur lui-même, devient extrêmement toxique. Résistant au froid et aux radiations, seul un chauffage à très haute température permet de le détruire. Ce sont ces mêmes prions qui, une fois dans l'estomac du bovin, traversent la barrière du système digestif et se rendent jusqu'au cerveau. Ils se logent ensuite dans le tronc cérébral et, dans une configuration dite repliée, contaminent les prions sains naturellement présents à la surface des neurones. L'effet produit est le même que celui des dominos. Les prions finissent par tuer les neurones, leur mort mène à des lésions cérébrales sévères et irréversibles. Chez les bovins malades, grâce à des analyses microscopiques, on s'est progressivement rendu compte que ces prions engendraient une encéphalopathie spongiforme, l'ESB, une maladie irréversible qui provoquait chez eux une dégénérescence du système nerveux central. C'est bien simple. En l'espace de quelques jours, lorsque le prion devenait actif, le cerveau des animaux malades ressemblait vite à une éponge, avec des trous un peu partout.
Ce sont ces trous cérébraux qui expliquent le dérèglement physiologique et physique chez les bovins atteints de la vache folle, ainsi que les syndromes externes qu'on peut observer chez eux, agressivité, perte d'équilibre ou encore impossibilité de se tenir sur leurs pattes. Face à ce scénario, le professeur Cassuto dresse un constat laconique.
L'homme fou a rendu la vache folle en l'alimentant avec de la viande de mouton contaminée par un agent transmissible non conventionnel, le prion, nouvelle alien parmi les agents infectieux. Puis, l'homme a consommé la vache qu'il a lui-même infectée pour être à son tour atteint d'une encéphalopathie, celle de Creutzfeldt-Jakob, la version humaine de la maladie de la vache folle. Une maladie rare qu'on identifiait le plus souvent chez des personnes âgées et dont la période d'incubation peut varier de quelques mois à plusieurs années, ce qui la rend difficilement détectable sans une biopsie du cerveau. Malgré des constatations similaires chez les animaux atteints d'ESB et les patients atteints de la variante humaine Creutzfeldt-Jakob, le dogme de la sacro-sainte barrière des espèces a longtemps convaincu les scientifiques qu'aucune contamination n'était possible entre l'ESB animal, la fameuse maladie de la vache folle, et sa variante humaine, celle de Creutzfeldt-Jakob.
Et pourtant, 11 ans plus tôt, au début de l'année 88, certains chercheurs demandaient déjà que soit appliqué le principe de précaution pour éviter toute forme de contamination de cette maladie qui touche plusieurs milliers de bovins. Or, face à eux, il y a ces puissants lobbies de l'industrie agroalimentaire britannique qui pèsent plusieurs milliards de livres sterling à la Bourse de Londres. C'est David contre Goliath.
Septième jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner. À Paris plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds, Paris Eldorado sur l'eau. Parisienne, comme des oiseaux planés. On en verrait bientôt valser. Brisa cheirando a flor, paraíso do nosso amor. Paris, Eldorado.
Sensible aujourd'hui, la crise de la vache folle. Aux confins des années 90, les autorités sanitaires britanniques vont rapidement prendre des mesures rigoureuses. Le gouvernement annonce le 8 juillet qu'à titre préventif, tous les bovins atteints de SB seront abattus et détruits. Nous sommes en 1988. 10 jours plus tard, le ministère de l'Agriculture annonce l'interdiction de nourrir les bovins avec des farines d'origine animale, mesure qui ne concerne pas les porcs et les poissons qu'on va continuer d'alimenter de la sorte pendant des années. C'est ainsi que des dizaines de tonnes de farines animales possiblement contaminées vont continuer à être vendues à la France, qui ne bloque ses importations qu'en août 1989, puis pendant plusieurs années encore, vendues à la Belgique, à la Suisse, à la Hongrie, à la Pologne, autrement dit, à tous ceux qui voulaient bien en acheter. En 1990, on dénombre plus de 10 000 bovins malades de la vache folle en Grande-Bretagne. Le 1er mars, la Communauté économique européenne limite les exportations de bœuf britannique aux animaux de moins de 6 mois ne descendant pas de vaches suspectées malades, tout simplement parce que ces animaux jeunes n'ont pas pu consommer de farines animales. Pour l'instant, en France, au printemps 90, aucun cas de vache folle n'a été identifié sur le territoire, mais les consommateurs sont inquiets. Alors ils boudent le bœuf, que celui-ci soit français ou non. Dès lors, les pouvoirs publics doivent faire face à une crise économique pour toute la filière bovine. Aussi va-t-on mettre à contribution les médias pour qu'ils mettent en avant les témoignages de nombreux spécialistes français reconnus afin de rassurer la population et de lui faire reprendre le goût du bœuf. C'est le cas, par exemple, du professeur Jeanne Brugger-Picou de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Pour cette spécialiste reconnue, le problème sanitaire rencontré par les Britanniques ne peut pas arriver en France. Elle s'en explique dans le journal de France 2.
Ça, nous n'aurons jamais l'épidémie anglaise. Il est évident que nous n'avons pas fait la bêtise de modifier la préparation des farines de viande en France, comme cela était le cas en Angleterre. Mais nous avons quand même eu quelques importations d'origine anglaise, qu'il s'agisse de bovins vivants ou de farines de viande, qui peuvent laisser suspecter ce risque. Et bien, ce risque sera minime relativement, nous n'aurons que des cas sporadiques. Étant bien prévenus de la maladie, il est évident que tout sera fait pour éradiquer la maladie rapidement, et ceci dans toute l'Europe, si un cas devait survenir.
Aujourd'hui, dans l'état actuel de ce que l'on sait, est-ce qu'on peut dire qu'on peut consommer de la viande sans aucun risque ?
Personnellement, je pense qu'on peut consommer de la viande sans aucun risque.
Bref, dormez tranquille. Malgré ces messages qui se veulent rassurants, à Paris, où on suit avec attention la situation dans les campagnes anglaises, on reste préoccupé par l'évolution possible de la maladie. Aussi, afin d'éviter une contamination du cheptel français pour apaiser les consommateurs, le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, suspend les importations de viande de bœuf britannique. Dans les jours qui suivent, l'Allemagne et l'Italie lui emboîtent le pas. Pour l'agroalimentaire britannique, cette décision est une catastrophe, car elle perd ses principaux clients, qui dépensent chaque année près de 300 millions d'euros pour leurs importations de bœuf. Heureusement pour Londres, la communauté économique européenne, toujours bienveillante lorsque les puissants lobbies entrent en jeu, décide que contre la mise en place sur toute la Grande-Bretagne de mesures sanitaires draconiennes, les exportations de bœuf britanniques peuvent reprendre en Europe. Cette décision permet donc la levée des embargos français, allemands, italiens. Dans le même temps, les Britanniques lancent une grande campagne publicitaire « British Beef is Safe ». Comprenez, le bœuf anglais est désormais sûr, aucune raison de vous inquiéter. Malgré toutes ces précautions, quelques mois plus tard, le 2 mars 1991, un premier cas de vache folle est signalé dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Les autorités sanitaires décident d'abattre le troupeau entier, près de 120 bovins. Au micro de France Inter, l'éleveur encore sous le choc raconte la scène.
J'ai perdu 117 animaux, quoi. C'était un troupeau de 45 vaches laitières, plus toutes les genisses, plus un lot de taurillons. Et tout est parti, de la vache adulte au petit veau de 3 à 4 jours. Tout le monde est parti. Le dernier matin, en fait, hein, il a fallu les traire et je leur ai donné à manger comme tous les jours, comme un jour normal, quoi. Sachant que l'après-midi est parti. C'est vrai qu'on est attaché à ses animaux, c'est normal, hein, c'est les siens, c'est mes vaches, quoi. Hein. J'étais pas là pour voir, donc on est rentré le soir, il faisait nuit, et puis le lendemain matin, c'était calme, il n'y avait pas un bruit, quoi. Tous les bruits qu'on entend habituellement dans une ferme, il n'y en avait plus le lendemain. C'est là que vous vous dites, ouais, vraiment, il n'y a plus rien, quoi.
Cet épisode marquant, relayé par de nombreux médias, nous montre tout le pathétique de la situation. Certes, les vaches sont mortes, on les a sacrifiées, mais après tout, répondent d'autres. Hein, chaque année, sont bien 200 000 bovins qu'on emmène aux abattoirs pour qu'ils puissent prendre le chemin de nos assiettes. Alors, que penser de tout cela? Jeu médiatique malsain ou volonté des pouvoirs publics de détourner l'attention du danger vers le malheur des éleveurs, nouvelles victimes autoproclamées de la vache folle? Pourtant, elles sont victimes, nous venons d'entendre un éleveur. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, les mois passent et les chiffres de la contamination des bovins semblent croître de manière dramatique. De 15 000 en 1990, il passe à 20 000 en 91, avant d'atteindre un pic de 36 000 cas en 1993, pour enfin diminuer et revenir à 5 000 trois ans plus tard, en 1996. Pendant toutes ces années, mis à part l'abattage systématique des bêtes malades, le gouvernement britannique assure que la situation est normale et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. The beef is safe, comme on dit. Cette situation entre incertitude scientifique et hésitation politique nous amène donc au printemps 96, période où l'on découvre le danger réel de la vache folle, sa possible transmission à l'homme via la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dès lors, l'Europe entre dans la plus grande crise sanitaire de son histoire. Deux jours après l'annonce du ministre anglais de la Santé, la France interdit toute importation de viande bovine et de produits à base de tissus bovins en provenance de tout le Royaume-Uni. Cette décision est suivie quelques jours plus tard par la Commission européenne qui déclare un embargo total. En Grande-Bretagne, la crise du bœuf est un désastre économique et un mal honteux pour ce pays, premier exportateur de cette viande en Europe. Un commerce à 400 millions d'euros chaque année, rendez-vous compte. Londres doit maintenant retrouver la confiance des pays européens. Les médias anglo-saxons s'en font largement l'écho. Ils montrent leurs responsables politiques qui se rendent dans les fermes. Tout comme ils insistent dans leurs éditions quotidiennes sur les nouvelles formes de contrôle sanitaire dans les abattoirs. Des méthodes visant à enlever au bœuf toute forme de tissu nerveux, ceux qui peuvent contenir le prion pathogène. En revanche, personne ne parle dans les médias des 55 victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et peu d'efforts sont faits pour aider les victimes et leurs familles. Elles sont éclipsées derrière les images des éleveurs sinistrés. Ce sont eux qu'on montre, car ils doivent abattre leurs troupeaux. Frédéric Brunkel a rencontré certaines de ces familles dont la maladie a emporté un proche. Témoignage poignant qu'il a filmé.
C'est une déchéance progressive. Il ne pouvait plus marcher, il était en chaise roulante. Il n'arrivait plus à parler ni à communiquer. Il ne parvenait même plus à manger seul. Nous devions lui injecter dans la bouche des boissons protéiniques avec une seringue. Et puis, il est tombé dans le coma. Le pire dans cette maladie est que les malades perdent leur capacité à communiquer. Vous ne savez pas s'ils sont conscients de leur état. C'est une déchéance terrible, sans espoir, et qui mène inévitablement à la mort. Mes pensées aujourd'hui vont vers ces jeunes ménages dont l'homme ou la femme est mort et qui essaient toujours d'élever leurs enfants. Ils n'ont reçu aucune aide financière alors que les éleveurs ont été indemnisés pour les vaches qu'ils ont perdues.
Malgré ce scandale sanitaire qui va emporter à terme plus de 82 personnes, la priorité pour le gouvernement britannique, c'est l'opération Vache Propre, un coup de com' qui vise à rétablir la confiance du consommateur à tout prix. Alors hors de question que les médias s'apitoient sur les malades ou leurs familles. C'est cette politique qui va conduire à un dispositif pour soutenir le marché. Les géants de l'industrie agroalimentaire britannique vont décider, afin d'éviter toute forme de surproduction et de rassurer le consommateur, une politique d'abattage systématique des bovins de plus de 30 mois, soit près de 4 millions d'animaux en l'espace de 3 ans. Des animaux sains à 90%. Comme explique Peter Scott, représentant de la Fédération britannique de l'industrie de la viande, il s'agit uniquement de rassurer le consommateur par cette mesure choc. Là encore, c'est un extrait du documentaire Mort au vache de Frédéric Bunkel.
Le but de ce plan d'abattage des bovins de plus de 30 mois est uniquement destiné à donner des garanties et à rassurer les consommateurs. À ce jour, nous avons détruit plus de 4 millions d'animaux. Moins de 1% auraient développé des signes cliniques de la maladie de la vache folle. Et quoi qu'il en soit, en retirant tous les organes susceptibles d'être infectieux et de transmettre la maladie, nous aurions entièrement réduit le risque. Ce plan d'abattage coûte très cher à l'industrie de la viande, mais il faut reconnaître qu'il nous a permis de retrouver la confiance du consommateur et nous devons nous en féliciter.
En France, l'administration sanitaire instaure le principe appelé « traçabilité » pour suivre la viande de bœuf, de l'étable jusqu'à la boucherie. Comme son voisin britannique, la France lance une grande campagne de communication. Une manière pour les autorités françaises de dire qu'aujourd'hui tout est maîtrisé et que le bœuf qui arrive dans les assiettes est sans danger.
Une mise au point s'impose. En prolongement des nouvelles réglementations sur l'alimentation des animaux et grâce à la carte d'identité de chaque bovin, les professionnels français peuvent vous garantir des informations, comme l'origine. De plus, des marques régionales vous garantissent des critères de qualité complémentaires, contrôlés de l'élevage jusqu'au point de vente par un organisme indépendant. Ces marques régionales s'associent au nouveau sigle Critères Qualité Contrôlée.
Les marques de nos régions, savoir pour mieux choisir.
On crée même un centre d'information de la viande, le CIV, pour informer les journalistes au quotidien sur l'évolution de la situation et bien sûr rassurer par un discours scientifique volontairement optimiste. Il faut dire qu'en France, même si le cheptel français est touché dans des proportions bien moindres que son voisin britannique, ça ne va pas empêcher l'apparition de près d'une trentaine de cas de vaches folles. C'est cet embargo qui crée une tension diplomatique avec Londres. En novembre de la même année, Paris refuse de lever l'embargo parce que, en 1999, on dénombre toujours 2000 cas déclarés en Grande-Bretagne. Bruxelles partage le point de vue de Paris, mais explique que la viande anglaise a le droit d'être exportée, non pas au motif qu'elle est devenue parfaitement saine, mais parce qu'au bout du compte, elle n'est pas plus dangereuse aujourd'hui que celle provenant d'autres pays.
Dans cette crise, aucun impératif ne peut être placé plus haut que l'exigence de la santé publique. Aucune objection économique, aucune contrainte technique ne peuvent être retenues qui seraient contraires à cet impératif. S'agissant des farines animales, une expertise a été à juste titre demandée à l'Agence de sécurité alimentaire. Mais j'estime pour ma part que sans attendre les résultats de cette expertise, il faut suspendre l'utilisation de ces farines dans tous les élevages, en attendant de prendre une décision définitive au vu des dires d'experts.
Au-delà d'une crise agroalimentaire et sanitaire d'une ampleur sans précédent, cet épisode est symptomatique d'une crise politique à l'échelle de l'Europe. Cette union de pays à l'histoire différente, à la culture différente et à la gestion du risque différente. De cette crise de la vache folle, aucune leçon n'est tirée par le pouvoir politique. La seule attitude des autorités va consister à consolider l'économie par des importations à bas prix de viande venue des pays de l'Est et à demander le retrait des farines animales. S'en suivront des contaminations sporadiques mais marquantes en France, au Portugal, au Danemark, trois pays qui pourtant n'utilisaient plus de farines animales. Alors, comment la maladie s'est-elle propagée à des cheptels sains? Nombre de scientifiques pensent qu'il existe une troisième voie de contamination, des cas spontanés qu'il est impossible de prévoir, des bovins broutant dans les herbages où sont morts d'autres animaux malades, par exemple. La crise de la vache folle a déclenché des controverses durables sur les pratiques de l'industrie agroalimentaire moderne, mais aussi sur le comportement des consommateurs face aux risques. Elle est une démonstration magistrale de l'irrationalité du mangeur contemporain. Comme l'explique le sociologue Claude Fischer, c'est la thèse de la déraison alimentaire qui est proposée. Une piste intéressante.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh,
break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? To give, I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la crise de la vache folle avec notre invité Éric Favreau. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Libération, spécialiste des questions de santé. Je rappelle que Libération est notre partenaire tous les 15 jours. On a entendu le récit. Je voudrais quand même commencer par l'actualité, puisqu'en mars dernier, on nous a dit que la maladie de la vache folle était de retour. Un cas, je dis bien un cas, d'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB, la vache folle, a été détecté dans un élevage des Ardennes. Alors, on y dit qu'il n'y a pas de quoi s'affoler, d'abord parce que les farines animales ont été interdites, et puis que c'est un cas isolé. Certes, il y a eu d'autres cas isolés en 2013 aux États-Unis, en 2015 en Irlande. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait des cas isolés, mais un cas isolé plus un cas isolé, ça peut peut-être commencer à faire quelque chose de général, non ?
Oui, peut-être, ça peut faire quelque chose de général, mais sincèrement, je ne crois pas qu'il faille tirer la sonnette d'alarme, parce qu'il y a et puis, est-ce que c'est vraiment, est-ce que la confirmation du test a été très claire, etc. Non, là, face à un cas isolé, en tout cas, que ça soit en médecine humaine ou en médecine animalière, on peut rien en tirer, quoi. C'est vrai que, on aimerait bien savoir comment apparaissent ces cas isolés. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a traîné, qui a fait que l'animal a été contaminé? Est-ce qu'il y a eu quelques farines animales? Mais bon, les farines animales ont totalement disparu. Ce serait vraiment c'est un joli roman policier de savoir comment ce cas isolé a pu se faire avoir par ce méchant prion.
Bon, on dit ça aussi parce qu'il y avait un traumatisme. Aujourd'hui, on y pense moins, mais on s'en souvient. Est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment la crise sanitaire la plus grave, peut-être en France, depuis l'après-guerre?
Je crois pas parce qu'il y a eu quand même beaucoup de crises sanitaires depuis l'affaire du sang contaminé qui a quand même donné un regard très 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 négatif et très inquiétant sur
crise alimentaire.
Comme crise alimentaire, oui. Voilà. Ça, c'est vrai que comme crise alimentaire, ça a été un des éléments les plus marquants et puis surtout que ça pu symboliser à un moment donné l'industrialisation de l'agriculture, qu'on était passé à autre chose, et l'industrialisation de l'agriculture, tout le monde se disait, bon, ben, c'est bien, c'est pratique, etc., mais au moins, c'est sans danger. Et bien voilà que cette industrialisation n'était pas sans danger.
Alors, avant que l'affaire n'éclate, pendant près de 10 ans, on sait que la maladie existe, hein, pendant près de 10 ans, puisqu'elle a été identifiée, mais alors personne ne semble s'en préoccuper. En 1987, plusieurs scientifiques réputés au Royaume-Uni avaient averti qu'un risque de contamination humain était possible. Alors bien sûr, on n'a pas écouté ces personnes-là. C'est quoi ça? C'est l'œuvre des lobbies?
Je crois pas. On est dans cette affaire de la vache folle et du prion face à quelque chose de très déroutant parce que d'un côté, il y a quand même une magnifique, pour employer ce vocabulaire, une magnifique énigme intellectuelle ou scientifique. C'est quand même un nouvel agent infectieux qu'on comprend mal, qu'on a du mal à saisir s'il est très contaminant ou pas. Voilà, donc il y a une vraie interrogation scientifique. Et de l'autre, il y a des pratiques derrière, en particulier avec cette étonnante idée de donner de la nourriture animal à des gens, à des bêtes qui n'étaient pas faites du tout pour ça. Voilà, il y a un mélange de ces deux choses. Et là-dedans, rentre en ligne de compte le fait qu'il y a une sensibilisation, très forte aux questions de santé, de sanitaire. D'où c'est pour ça qu'il y avait quand même tout un cocktail qui permettait que les choses s'emballent.
Alors, cette affaire de la vache folle, c'est l'absence aussi d'une politique commune européenne. On l'a vu avec l'approche britannique, ça a commencé en Grande-Bretagne, avec l'approche française, et on se dit qu'on est aussi dans une guerre économique tout de même, et avant tout, non?
Il y a une guerre économique, mais je crois pas que ça soit ça le plus... En tout cas, c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Moi, ce qui m'a plus marqué, je vous dis, c'est quand même des processus de production qui change radicalement parce que c'est une nouvelle agriculture qui se met en place et qui fait naître et qui provoque toute une série d'interrogations scientifiques majeures. On ne comprend pas ce qui se passe quand apparaît cette maladie, parce qu'en plus c'est une maladie extrêmement bizarre, très particulière. On l'avait découvert en Nouvelle-Zélande, ça venait de rites funéraires où on mangeait le cerveau du mort, etc. Donc il y avait c'est quelque chose de très rare, de très compliqué, et puis surtout ça n'avait pas du tout le même mécanisme que les virus ou que les bactéries. On était face à quelque chose de très nouveau. Donc c'est pour ça que la guerre industrielle ou la guerre économique, évidemment, à mon avis, elle a pu se manifester surtout après, lors de la gestion de cette crise. Mais c'était pas, à mon avis, le point de départ.
Et enfin, Éric Favreau, dans la mesure où on fait manger des carcasses d'animaux morts, donc de la viande, pardon, à des herbivores, on prend quand même le risque de se retrouver en face d'une maladie que, par définition, on ne peut pas comprendre. Le risque, il est là. C'est d'abord un risque de rentabilité.
Oui, tout
enfin,
à fait.
C'est absurde de faire manger des herbivores, enfin.
C'est plus le côté absurde.
Oui.
Des choses absurdes, on en fait beaucoup, et c'est pas parce qu'une chose est absurde qu'elle est dangereuse pour la santé. C'est vrai que c'est une pratique qui paraît absolument ahurissante.
Elle est scandaleuse, au-delà d'être absurde.
Elle est scandaleuse parce qu'elle est devenue dangereuse, quoi. Là, on est sur des... Autrement, quoi, je ne sais pas, moi, n'étant pas agriculteur, je ne sais pas ce qu'ils font et je ne sais pas quelles sont leurs pratiques. Mais c'est vrai qu'il y avait, c'est ça qui est aussi, et peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu un tel impact, quelque chose de très particulier entre une pratique absurde, quoi, absurde, c'est pas tout à fait le mot, mais totalement incongru, faire manger des farines animales à des herbivores, voilà, et de l'autre, comment imaginer que cette action-là puisse avoir des conséquences sur la santé?
À partir du postulat, on peut imaginer que ça a des conséquences.
En tout cas, ça en a eu.
Ah ben voilà, ça en a eu. On va écouter le ministre de l'Agriculture de l'époque, c'était Jean Glavany. C'était un bon ministre, d'ailleurs. Il a laissé une trace plutôt positive dans son action. C'était un vrai marathonien. Bruxelles, Paris, il n'arrêtait pas. Et voilà ce qu'il disait de cette crise à l'époque.
Et alors, assurer la sécurité alimentaire, c'est aussi faire admettre la notion de risque aux consommateurs?
Oui, je crois. Je vais vous paraître paradoxal. Je crois qu'à la fois un gouvernement doit prendre le maximum de décisions pour assurer la protection des consommateurs, mais je crois aussi que, notamment hors des crises, les pouvoirs publics ont une responsabilité pour expliquer aux consommateurs qu'il n'y a jamais de risque zéro.
Qu'est-ce que vous pensez de cette
stupide,
déclaration?
Stupide, véritablement stupide. C'est qu'il mélange tout. Le risque zéro, ça n'existe pas en médecine avec les médicaments où il y a un principe actif et des effets secondaires. Là, on est sur quelque chose où, évidemment, le consommateur, vu les conditions de production et après de vente industrielle, il a le droit d'exiger un risque zéro. Il faut pas tout mélanger. C'est très étonnant, quoi. Depuis quelques années, et puis ça continue. C'est cette utilisation à tout va de cette expression. Il n'y a pas de risque zéro, etc. Non, évidemment, il n'y a pas de risque zéro quand vous prenez votre voiture. Mais là, dans quelque chose qui est très particulier, qui est l'industrie alimentaire, qui est quand même quelque chose d'extrêmement standardisé, où on rentre dans un processus industriel, personne n'obligeait toutes ces agricultures à s'industrialiser. En s'industrialisant, on le sait bien, ça a perdu, la nourriture a perdu du goût. Au minimum, on peut exiger que certes elle a plus de goût, mais au moins elle est sûre. D'où, c'est pour ça que la remarque de Glavany, oui, quoi, je la trouve stupide.
Alors, il y a eu d'autres conséquences, alors purement économiques et terribles pour les éleveurs bovins. On sait à quel point c'est difficile, pour extrêmement difficile. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent peu. Et là, le préjudice a été énorme pour eux. Terrible.
Ça, je ne sais pas. Évidemment que ça a été énorme, hein, parce que dès qu'il y avait le moindre cas, tout le troupeau était... Alors voilà, sur le moment, c'est pour ça qu'il faudrait y revenir. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Sur le moment, on parle toujours d'indemnisation, que tout... Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que cette indemnisation était à peu près correcte ou pas? On peut craindre que voilà, les pauvres éleveurs ont subi des pertes énormes, alors que eux n'ont fait que suivre les réglementations, et à un moment donné, ça leur est tombé dessus. Ils avaient presque une obligation d'utiliser ces farines animales pour faire tourner leur élevage. Donc là, ils se retrouvent dans une situation impossible et financièrement désastreuse. Mais je ne sais pas, peut-être, on peut toujours rêver que les pouvoirs publics ont été corrects dans l'indemnisation.
En tout cas, il fallait dire un mot d'eux quand même dans cette
crise. Ah oui, parce que vraiment, ils y sont pour rien, quoi.
Bah oui, ils ont été vraiment les victimes. Eric Favreau, on va souffler 3 minutes, le temps d'une touche de French Touch. C'était en 96.
I'm not afraid to die.
Punk sur France Inter, Around the World, c'est ce qu'on appelait la French Touch à l'époque, et ça a eu son petit succès. Bien, on va revenir à nos moutons, si j'ose dire, Éric Favreau. Alors, quelles sont les leçons qu'on a tirées de cette affaire? Parce que c'est quand même le plus important. Est-ce qu'on a mis des procédures en place qui, à votre avis, ont été efficaces? Et puis, quelles sont les leçons morales qu'on a pu en tirer?
Mais je crois qu'il y a quand même eu, il y a eu deux choses. Ça a marqué quand même l'entrée. Alors, c'est vrai que l'industrialisation de l'agriculture était déjà bien lancée, mais ça a donné un coup de fouet et un coup de projecteur sur le fait que l'alimentation doit être sûre, quoi. Mmh. Qu'à partir du moment où on achète des produits, c'est pour ça que je trouvais précédemment la réflexion de Glavany un peu stupide, c'est que c'est pas la même chose d'acheter de la viande ou du lait que d'acheter un médicament. Voilà, on n'est pas du tout dans la même logique. Là, on a d'une certaine façon changé d'époque, ou d'une certaine façon, on a fait beaucoup, beaucoup plus d'attention. C'est de là que s'est développée l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui a pris un autre nom. Et puis ensuite, c'est vrai qu'à partir du moment où on a fait attention, on a vu qu'il y avait plein de petites bizarreries, qu'il pouvait y avoir plein de petites bactéries, toutes les infections qui ont pu, à partir de la vache folle, venir de l'alimentation, ont été quand même reçues de façon beaucoup plus sensible. Et là, il y a eu beaucoup, une politique très, très, très forte. Alors, il est vrai que le contre-pied et le point négatif, c'est qu'on, alors on peut dire qu'on est rentré dans un monde normatif où tout doit être surveillé, tout doit être contrôlé, évalué, etc. Ce qui est pas faux non plus. Mais là, c'est vrai qu'on a basculé sur un monde de la norme. Et que le consommateur ne supporte, on peut pas supporter qu'un aliment qu'on achète soit dangereux pour la santé.
Et pourtant, on a eu d'autres affaires. Je pense à la viande de cheval, hein, oui. dans les produits surgelés. Et donc, malgré tout, comment vous expliquez qu'une affaire comme ça ait pu éclater, alors qu'après la vache folle, comme vous l'avez dit, on en a tiré quand même pas mal de conclusions et on a mis en place des mesures quand même.
Les autres affaires sont quand même des affaires d'escroquerie, quoi. L'affaire de la vache folle, c'était pas de l'escroquerie. Il y avait ce mystère de, quand il y avait cette industrialisation et puis ce mystère scientifique. Après, il y a eu toute une série. C'était ça qui, d'une certaine façon, était assez intéressant. C'est que comme il y avait le focal qui était mis dessus, plein de choses ont pu apparaître, des choses alors qui relevaient d'un problème de réglementation, de normes à être un peu plus sérieux sur leur élaboration. Et puis à côté, on a vu aussi les pratiques d'escrocs, voilà. Et ça ne va pas changer. Il y aura toujours, quelle que soit la discipline, quelle que soit l'industrie, il y aura toujours des gens qui essaieront de passer à travers et d'avoir des pratiques un peu dangereuses. Mais je crois pas que ça soit de même nature.
Éric Favreau, on va écouter une deuxième et dernière archive. Jacques Chirac, qui était un fervent partisan du maintien de l'embargo, et qui répondait aux journalistes britanniques qui tentaient de mettre sa position en cause. C'était lors d'une conférence de presse à Londres en novembre 99.
Dans cette crise, aucun impératif ne peut être placé plus haut que l'exigence de la santé publique. Aucune objection économique, aucune contrainte technique ne peuvent être retenues, qui seraient contraires à cet impératif. S'agissant des farines animales, une expertise a été à juste titre demandée à l'Agence de sécurité alimentaire. Mais j'estime pour ma part que sans attendre les résultats de cette expertise, il faut suspendre l'utilisation de ces farines dans tous les élevages, en attendant de prendre une décision définitive au vu des dires d'experts.
Donc aujourd'hui, Eric Favreau, ce sera la dernière question, il n'y a plus de farine animale nulle part.
Mais je crois. Mais juste pour revenir un tout petit peu en arrière avec les propos de Jacques Chirac sur l'interdiction de l'importation, c'est aussi un des éléments qui a été très positif, si on peut dire, de cette crise. C'est que bon, c'est posé la question, est-ce qu'il faut interdire sur l'importation, sur des animaux venant de Grande-Bretagne. Il y a eu un débat à l'époque qui était très intéressant parce que pour la première fois, c'est posé de façon assez claire qu'est-ce qui relevait de l'expertise et qu'est-ce qui se relevait d'une décision politique. Jusqu'à présent, il y avait une sorte de mélange, on ne savait plus trop, l'expert était politique, dès qu'un expert donnait un avis, le politique devait le suivre. Là, c'était d'ailleurs à l'époque, c'était Martin Hirsch, je crois, qui dirigeait l'agence de sécurité des aliments. Il y a eu cette volonté, que l'on a vu après, qui était d'essayer de distinguer deux strates différentes qui allaient permettre ensuite aux politiques de décider, mais qu'il n'était pas obligé de suivre toujours l'avis de l'expert, comme le politique pouvait ou le suivre. C'était, de ce point de vue-là, ça a marqué un changement, parce qu'ils ont été quand même très très loin dans les expertises, dans les travaux, dans les commissions, etc. Et donc, il y a eu, je trouve, dans la prise de décision sur ces questions-là, une avancée grâce, si on peut dire, à cette affaire de la vache folle.
Bah, ça s'appelle le retour d'expérience. L'accidentologie peut avoir des aspects positifs. Merci infiniment, Eric Favreau, notre confrère de Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Merci, au revoir. Then I'm radio on, then I'm television. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. Lay the young blue body with the old red bodies. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. With my kid on my shoulders, I try not to hurt anybody I like, but I
c'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la crise de la vache folle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'opération RIP pour la Somalie ou les limites du droit d'ingérence humanitaire.